travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Il est manifeste aujourd'hui que les dirigeants du monde capitaliste sont incapables de maîtriser la crise de leur économie. Les chefs d'État, comme toutes les grosses têtes au service de la classe privilégiée, des prix Nobel de l'économie aux PDG grassement payés, eh bien tous, ils sont désarmés devant les soubresauts des marchés financiers. Les actions en bourse sont en hausse un jour, en chute libre le lendemain, et tout ça au gré des spéculations et de l'humeur de ce que l'on appelle les marchés financiers, en fait les grandes banques et les fonds de placement qui jouent jour après jour le sort de l'économie à la roulette russe. À ceci près que l'arme n'est pas pointée sur eux-mêmes, mais sur tous les travailleurs, sur les chômeurs et sur les retraités. Parce que s'il est manifeste que la classe privilégiée ne contrôle pas sa propre économie, il est plus manifeste encore qu'elle veut en faire payer les dégâts au monde du travail. Sous prétexte que les États sont trop endettés et qu'il faut rembourser cette dette, tous les gouvernements d'Europe et du monde sont en train d'imposer des plans d'austérité drastiques à la majorité exploitée de la population. À celles et ceux qui n'y sont pour rien dans l'aggravation de l'endettement des États, à celles et ceux qui n'ont pas tous touché un seul centime de ces milliards empruntés par les gouvernements auprès des banques. La bourgeoisie et ses serviteurs au sommet de l'État sont en train de nous refaire le même coup qu'ils ont fait en 2008. Ils sauvent les banquiers de la crise financière dans laquelle ils précipitent le monde. Cette fois-ci, cela se fait sous le prétexte de sauver l'euro, disent les uns, ou alors de sauver la Grèce, disent les autres. Ceux qui parlent du sauvetage de la Grèce sont sans doute les plus crapuleux. La population grecque subit depuis plus d'un an des licenciements massifs, notamment par l'État. La baisse des salaires, l'amputation des retraites, la ruine des petits commerces, parce que les salariés n'ont plus d'argent pour acheter. Et c'est cela qu'ils appellent un plan de sauvetage ? Le plan d'austérité qui est imposé aux classes laborieuses en Grèce n'est pas fait pour les sauver, mais pour les enfoncer dans la misère. Ceux que les gouvernements européens sont décidés de sauver, une fois de plus, ce sont les banquiers. Les banques françaises et allemandes en premier lieu, qui sont jetées sur la Grèce comme des vautours pour lui prêter à des taux usuraires. Et maintenant que ces mêmes banques sont inquiètes à l'idée que, même en pressurant toujours plus la population, eh bien le gouvernement grec ne puisse plus rembourser, elles veulent que ce soit les États les plus riches, l'Allemagne, la France, qui les remboursent. Pour soi-disant sauver les banquiers et relancer l'économie, les États font des ponts d'or aux capitalistes. Mais l'argent qu'ils récupèrent, directement par l'exploitation et indirectement par toutes ces subventions, eh bien, ils n'en font rien d'utile. C'est de l'argent qui est englouti par les grandes fortunes, c'est de l'argent qui est dilapidé dans la spéculation et qui nuit à toute la société. Et c'est pour ce gâchis innommable qu'il faudrait accepter de réduire le nombre d'instituteurs, d'enseignants, accepter de réduire le personnel hospitalier, de fermer des bureaux de poste. C'est pour ça qu'il faudrait faire des sacrifices. Les intérêts de la dette, c'est-à-dire 50 milliards d'euros par an, sont en passe de devenir le premier poste de dépenses budgétaires, devant l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on donne plus aux banquiers qu'aux 12 millions d'enfants et de jeunes scolarisés pour les éduquer et pour les cultiver. Et attention, ce que le gouvernement veut réduire, ce n'est pas ce qu'il donne aux banquiers, mais c'est ce que lui coûte l'éducation de la jeunesse. Et tant pis s'il y a des classes surchargées d'un côté et des fermetures de classes de l'autre. Tant pis s'il n'y a plus de remplaçants. Et tant pis si on ne peut plus s'occuper des élèves en difficulté. On parle d'enfants et de jeunes en échec scolaire. Mais il vaudrait mieux dire qu'ils sont rejetés par le système scolaire. Et le gouvernement après nous dira et reportera la faute sur les parents ou sur les jeunes eux-mêmes. Mais c'est lui le coupable. C'est lui qui fabrique une jeunesse déboussolée et désocialisée. C'est sa politique qui conduit la société à la décomposition. Voilà pourquoi tous les travailleurs doivent rejeter tout appel au sacrifice, explicite ou implicite, de ceux qui dirigent la société et qui la dirigent si mal. Les travailleurs, les exploités ne doivent pas se laisser impressionner par les problèmes des banques, de la dette, de l'euro ou de la crise, qui seront de toute façon utilisés contre eux, comme des moyens de chantage, pour qu'ils acceptent de nouveaux sacrifices. Le problème, ce n'est pas de choisir parmi les décisions de la bourgeoisie laquelle évitera la débâcle, aucune ne l'évitera. Les travailleurs n'ont aucun moyen d'empêcher les crises, sauf à supprimer le capitalisme. Mais ils peuvent empêcher la classe capitaliste de leur faire payer cette crise. Ils peuvent arrêter la dégradation de leurs conditions d'existence. Oui. Personnes vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, avec moins de 954 euros par an, par mois. Mais comment pourrait-il en être autrement, avec les centaines de milliers de travailleurs qui ont perdu leur emploi, qui ont été plongés donc d'abord dans le chômage, puis dans les minima sociaux? Comment pourrait-il en être autrement avec les salaires qui ne suivent pas le coût de la vie? Quel est le salaire qui a suivi la flambée des prix de l'immobilier ou du gaz? Quelle est la pension de retraite qui a augmenté au rythme des mutuelles, des assurances? Même se soigner coûte de plus en plus cher. Entre le déremboursement des médicaments, les franchises médicales, les dépassements d'honoraires. Combien d'entre nous hésitent avant d'aller chez le dentiste ou hésitent avant de changer sa paire de lunettes? Puis combien d'entre nous renoncent à acheter ce que l'on appelle maintenant, vous savez, les médicaments de confort? Alors oui, les classes populaires, elles l'ont payé cette crise. Et elles continuent de le payer, avec ce qu'elles ont de plus cher, avec leur emploi, avec leur salaire, avec leur retraite. Autant dire que sur la balance des sacrifices, la taxation de 3% des plus riches ne pèse vraiment pas lourd. Elle s'apparente d'ailleurs tout juste à une collecte de pièces jaunes auprès des plus riches. Quant à ceux qui défendent l'idée de taxer de 0,01% les transactions financières, pour mettre à contribution les spéculateurs, eh bien, ils sont en dessous de tout. En achetant sa baguette de pain, on paye 5,5% de taxes. Et sur tous les autres produits que l'on achète, on paye 19,6%. Et on demanderait à ces messieurs les spéculateurs de ne payer que 0,01% sur des transactions qui leur rapportent des millions et qui en plus nuisent à toute la société. Et ce serait ça le summum du radicalisme. Eh bien, avec de telles propositions, la bourgeoisie, elle peut dormir tranquille. Alors, ce que nous, communistes révolutionnaires, nous avons à dire aux travailleurs, c'est que le chantage des ministres concernant la dette ne doit pas nous empêcher de nous défendre, de défendre nos emplois, de défendre notre pouvoir d'achat, de défendre notre vie. Confrontés à la crise, les capitalistes compensent leurs pertes ou le ralentissement de leurs affaires en aggravant l'exploitation. Ils augmentent les cadences, ils réduisent la masse salariale, ils licencient. Certains patrons, tout en faisant de l'argent, se permettent même de baisser tout simplement les salaires. Comme c'est le cas à la fonderie du Poitou Aluminium, où la direction veut baisser de 23%, c'est-à-dire de 350 à 500 euros par mois, les salaires ouvriers. Un autre exemple, ça c'est vraiment un cas d'école, c'est le groupe Peugeot, le groupe PSA. Il ne lui a pas suffi de battre un record de vente en 2010 et de faire plus d'1 milliard de bénéfices. Il ne lui a pas suffi d'enrichir la famille Peugeot de 2 millions supplémentaires par jour. Il lui en faut toujours plus. Et il met des intérimaires à la porte. Et il ferme des usines, comme celle de Moissy-Cramayel. Et il projette de fermer encore 3 de ces usines, dont 2 en France, c'est-à-dire mettre à la porte plus de 6000 travailleurs. Avec la crise, les capitalistes mènent leur lutte de classe avec une violence redoublée. Eh bien, c'est à nous, travailleurs, de mener la nôtre. Le sort des travailleurs dépend de la lutte de classe, du rapport de force entre les travailleurs et le patronat. Et ce n'est pas l'élection présidentielle de 2012 dont on nous parle du matin au soir qui changera cela. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, ont toujours laissé faire les patrons. Ils les ont toujours fait laisser faire ce qu'ils voulaient, quand ils ne prenaient pas fait et cause pour eux. Alors la seule perspective politique valable pour les travailleurs, c'est d'inverser ce rapport de force. C'est de ne pas se laisser faire, c'est de rendre coup sur coup. La seule façon d'arrêter les coups portés à la classe ouvrière, c'est une explosion sociale, où des millions de travailleurs se mettent en mouvement et qui fassent craindre à la bourgeoisie de perdre non seulement beaucoup d'argent, mais de perdre aussi son pouvoir sur les entreprises. Les journalistes me posent souvent la question « Mais comment se fait-il que malgré l'aggravation de la situation, vous, les communistes révolutionnaires, vous n'êtes pas plus suivis ? Et comment se fait-il que l'explosion sociale n'a pas eu lieu ?» Mais nous, les communistes révolutionnaires, nous n'avons pas plus que quiconque le don de la prévision. Ce que nous disons, c'est que cette explosion sociale est nécessaire, indispensable pour arrêter les coups de la classe privilégiée, que la classe privilégiée porte aux classes exploitées. Quand, où et comment ces luttes se déclareront, personne ne le sait. Et il serait bien sûr vain de broder à ce propos. En revanche, nous avons tout intérêt à ce que le jour où cela arrive, nous soyons prêts. Et se préparer, eh bien c'est discuter de nos revendications. C'est fixer des objectifs qui nous unissent tous, par-delà la situation individuelle des uns ou des autres, par-delà notre branche professionnelle ou notre catégorie. C'est de discuter des objectifs qui unissent les travailleurs en activité à ceux qui ont été poussés au chômage, aux retraités. Le jour où les travailleurs entrent en lutte, il faut qu'ils sachent où ils veulent aller. Parce que la colère ou la détermination ne suffiront pas. Il faut aussi avoir une conscience claire de nos intérêts de classe, pour ne pas laisser des charlatans nous détourner vers des impasses, et à plus forte raison, vers des voies qui sauvent la mise à la bourgeoisie. Il faut qu'il soit clair pour tous que les dégâts de la crise seront inévitablement payés. Et si les travailleurs ne veulent pas que la bourgeoisie et ses dirigeants politiques la leur fassent payer à eux, eh bien il faut contraindre les possédants à payer pour les dégâts qu'ils ont causés. C'est eux ou c'est nous. Tous les responsables politiques qui prétendent venir en aide aux exploités, mais sans s'en prendre aux exploiteurs, à leur profit, à leur fortune, sont des menteurs. La crise, personne ne peut l'arrêter. Et toutes leurs tentatives dans ce sens, depuis 3 ans, le montrent amplement. Alors, nous avons à protéger nos seuls moyens d'existence, nos emplois et nos salaires. Il faut les défendre bec et ongles, en imposant l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire. Et les exploiteurs ont l'argent pour cela. C'est précisément parce que cet argent est détourné vers des opérations financières que la société crève. Alors cet argent, eh bien, il serait 1000 fois mieux utilisé à des embauches et au paiement des salaires. Nous devons aussi défendre nos salaires et les pensions de retraite des anciens en imposant leur augmentation conséquente pour rattraper le pouvoir d'achat perdu et pour préserver leur pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, il faudra les indexer sur les hausses des prix, de sorte qu'à chaque augmentation de prix, les salaires et les pensions augmentent automatiquement. Les patrons capitalistes nous expliqueront, ou alors ils feront expliquer par leurs serviteurs de la politique et des médias, que tout ça est utopique, que ce n'est pas possible, qu'il y a la concurrence internationale et que cela les ruinerait. Eh bien, qu'ils rendent donc public leurs comptes. Pas leurs comptes officiels destinés au fisc complaisant, mais les comptes où figure tout ce qu'ils versent aux actionnaires, tout ce qu'ils consacrent à des opérations financières, c'est-à-dire à la spéculation. Et on verrait alors qu'ils ont de quoi assurer l'emploi de tous les travailleurs, et ça sans licenciement, et qu'ils ont même de quoi augmenter les salaires de tous. Oui, il faut imposer la transparence. Vous l'avez entendu comme moi, le numéro 2 de la PJ lyonnaise un commissaire modèle, paraît-il, qui a même inspiré un film, est un policier ripoux, un mafieux, dans tous les sens du terme. Il faut dire qu'il a de qui tenir. Il n'a qu'à copier ce qui se passe au sommet de l'appareil d'État. Des valises africaines pleines de billets, des ventes d'armes avec rétrocommission, des écoutes téléphoniques, des intimidations et même des bombes qui explosent par mesure de rétorsion. Et tout cela se passe dans les plus hautes sphères de l'État. Les protagonistes sont ceux qui n'ont que les mots de morale, de justice, de démocratie à la bouche. Alors, il faut aussi que la population puisse contrôler ce pouvoir politique. On nous dit que nous vivons en démocratie parce qu'il y a des élections. Mais une fois élus, les dirigeants politiques peuvent renier tous leurs engagements et faire l'inverse de ce qu'ils ont promis. Les présidents de la République, les ministres, les députés, même pris en flagrant délit de corruption ou autre malversation, sont protégés par l'immunité. Eh bien, je suis non seulement contre cette immunité, mais je suis aussi pour que tous ceux qui occupent une position de responsabilité publique puissent être révoqués. Les présidents, les ministres, tous les élus, mais aussi tous ces hauts fonctionnaires, non élus, et qui sont pourtant ceux qui prennent les décisions au jour le jour, eh bien, il faut que la population puisse les connaître et les congédier à n'importe quel moment. Nous sommes pour que le pouvoir aille du bas vers le haut, en politique, mais aussi dans les entreprises, aussi dans l'activité économique. Les capitalistes cachent leur course au profit, cachent leur course au profit privé, bien sûr, et ils cachent leur dangerosité pour toute la société derrière le secret des affaires. Alors il ne faut pas les laisser prendre leurs décisions dans le secret des conseils d'administration, sans le moindre contrôle, sans la moindre transparence. Pour pouvoir les empêcher de faire leurs sales coups en cachette, il faut lever le secret industriel et le secret bancaire. Aujourd'hui, un salarié, un cadre, même s'il est au courant d'un projet contraire aux intérêts des travailleurs, de la société ou de l'environnement, eh bien il a interdiction de le dévoiler. Voilà pourquoi bien des travailleurs sont les derniers avertis quand ils sont licenciés. Voilà pourquoi, quand une entreprise pollue, voire empoisonne une partie de la population, celle-ci ne l'apprend qu'une fois que le mal est fait. Eh bien, il faut changer cela et supprimer cet interdit. C'est l'intérêt des salariés, mais c'est aussi l'intérêt de bien d'autres catégories populaires. C'est l'intérêt de toute la société. Bien sûr, supprimer cette loi qui punit actuellement tous ceux qui rendent public les mauvais coups qui se préparent derrière le secret des affaires ne fera pas tout. Elle ne fera que créer les conditions légales d'un contrôle de la population. Mais pour que ce contrôle soit effectif, il faudra encore la volonté de la population de se mobiliser et de s'organiser pour effectuer ce contrôle. Mais la suppression du secret des affaires, eh bien ce sera un premier pas qui, nous l'espérons, sera suivi de bien d'autres pour contester la dictature du grand capital. Quant aux banques, qui ont une responsabilité écrasante dans la situation que nous subissons, il faut les empêcher de nuire. De plus en plus d'économistes, y compris de dirigeants politiques, défendent à nouveau l'idée de les nationaliser. La nationalisation redevient à la mode. Bien sûr, les banquiers sont des irresponsables. Et on ne peut pas leur laisser les commandes des banques. Ils les transforment en salles de casino. Mais les nationalisations qu'ils proposent, eh bien c'est encore une façon de sauver les banquiers, de sauver leur fortune, de sauver leur sinécure. Eh bien nous sommes contre le fait qu'en leur rachetant leur entreprise au prix fort, la population paye une première fois avec la nationalisation pour qu'ils ressortent gagnant une seconde fois quand il y aura la privatisation dans l'autre sens. Nous sommes pour exproprier les banquiers sans indemnité ni rachat parce que nous ne leur devons rien. objectifs vitaux pour le mouvement ouvrier. Nous ne le répéterons jamais assez, mais nous savons que ces objectifs ne peuvent être réalisés qu'au prix de luttes déterminées, massives, mobilisant la majorité du monde du travail, mais c'est la seule issue. Alors je me présente dans cette élection pour défendre cette politique, ce programme qui est un programme de lutte pour les travailleurs. Aucun autre candidat ne le met en avant. Et même ceux qui se targuent d'être plus radicaux ne le font pas parce qu'ils sont trop respectueux du marché, de la concurrence et de la propriété capitaliste pour le faire. Leurs différences politiques correspondent surtout au fait qu'ils visent des électorats différents. Mais ce ne sont que des nuances d'une même politique qui ne remet pas en cause les inégalités, les injustices du système capitaliste et l'exploitation. Alors il n'y a aucune raison de laisser le monopole de la parole à ces partis qui s'accommodent d'un ordre social injuste et d'une organisation économique stupide. Non, l'avenir de l'humanité ne peut pas être le règne des profits, de l'exploitation, de la concurrence, des inégalités et des injustices. La société capitaliste est une maison de fous, où les crises ne sont pas engendrées par la misère et par la sous-production, mais parce qu'il y a trop d'argent à un pôle de la société, parce qu'il y a trop de production, parce qu'il y a trop de richesses. C'est une économie qui s'étouffe dans sa propre graisse. 12 millions de femmes et d'hommes sont affamés aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique. Mais on produit de la nourriture pour deux fois la population de la planète. Nous n'avons jamais eu autant de moyens pour construire, vite et bien, mais il manque de plus en plus de logements pour les classes populaires. Plus on peut faire circuler les connaissances et le savoir, moins il y a d'éducation. Et plus on a les moyens de soigner, y compris les maladies graves, et même de réaliser des prouesses médicales, moins les gens se soignent. Alors, à tous ceux, jeunes et moins jeunes, révoltés par le gâchis de cette société capitaliste, nous disons que l'avenir appartient aux travailleurs, à leur lutte, au communisme. Au lieu de l'individualisme de la société actuelle, il y a la solidarité, la force collective des travailleurs et de tous les exploités. Chacun a le choix de ne pas se résigner à vivre dans cette société non seulement injuste, mais aussi irrationnelle, absurde, et de lutter pour un monde meilleur qui utilise les ressources dont dispose l'humanité pour satisfaire les besoins de tous, et pas seulement d'une minorité rapace. Au repli nationaliste, voire xénophobe, il faut opposer l'internationalisme, c'est-à-dire la conviction que les travailleurs du monde entier ont les mêmes intérêts et que les frontières sont des barrières artificielles qu'on dresse entre les uns et les autres pour le plus grand profit des possédants. À tous ceux qui ne se résignent pas, nous disons qu'il y a un autre avenir, celui d'une société débarrassée des inégalités de classe et réorganisée sur des bases communistes. Bien sûr, la transformation de la société n'est pas l'enjeu de cette élection présidentielle, et elle ne peut pas l'être. La révolution ne peut pas surgir des urnes, pas plus de celle de l'élection présidentielle que d'aucune autre. La transformation révolutionnaire de la société ne pourra résulter que de l'activité consciente des masses exploitées, révoltées par leurs conditions d'existence et décidées de prendre le mal à la racine. Mais à une toute autre échelle, le programme de lutte que je vous ai exposé, eh bien aucun vote non plus ne pourrait l'imposer. Mais cette campagne, eh bien elle nous donne la possibilité de préparer politiquement les travailleurs pour ces luttes à venir. Cette campagne, elle nous donnera un peu plus accès aux médias. Mais ce moyen ne pèsera pas lourd face au matraquage médiatique en faveur du point de vue des possédants. Alors, nous comptons sur vous tous qui êtes ici pour propager ces idées autour de vous, pour en parler et pour nous aider dans cette campagne. Si l'élection présidentielle peut contribuer à faire connaître plus largement ces idées, à les populariser, eh bien ce sera un pas considérable pour préparer la suite qui se déroulera là où tous les changements se déroulent, c'est-à-dire dans les entreprises, dans la rue et en tout cas dans les luttes.